pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. On commence comme toujours par l'Incipit, la première phrase d'un grand roman. J'ai choisi un livre en lien avec notre invité cette semaine. Vous allez voir, il s'agit de Hell's Angels de l'écrivain journaliste américain Hunter Thompson. Le livre commence comme ça. Californie, fête du travail. Au petit matin, dans les rues encore embrumées de Frisco, Hollywood, Berdou et Oakland, des motards sauvages bardés de chaînes, jeans graisseux et lunettes noires s'éjectent des plumards et des snacks de nuit et déboulent des garages moites pour foncer sur la péninsule de Monterey, au nord de Big Sur. C'est une enquête, ce livre, une enquête dans les années 60, un an avec le gang de motards, les Hells Angels. C'est dangereux, toxique, violent, mais libre aussi. Plein d'autres livres à lire chez l'écrivain François-Henri Désérable. Nous sommes allés visiter sa bibliothèque et on y trouve aussi un revolver. Mais oui, décidément, c'est une émission transgressive cette semaine. Les libraires sont là aussi pour leurs bonnes idées de lecture et nous terminerons avec la chronique jeunesse de Victor Dolande. Mais d'abord donc, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
Hunter S. Thompson, c'est l'un des héros de la littérature mondiale. Il a créé un genre à lui tout seul, c'est la marque des grands écrivains. Il a une gueule, il a un style. On lui doit des chefs-d'œuvre tels que Las Vegas Parano ou Rome Express, tous deux adaptés d'ailleurs au cinéma avec Johnny Depp, qui était l'un de ses grands amis.
Combien de temps tiendrons-nous le coup, me demandais-je? Combien de temps avant que l'un de nous se mette à délirer, à bafouiller devant le gamin? Et que penserait-il alors? Ce désert, cette solitude avait été le dernier domicile connu de Charles Manson et sa bande. Ferait-il la soudure quand mon avocat se mettrait à hurler à propos des chauves-souris et avoir d'énormes raimentas à attaquer la voiture? Dans ce cas, eh bien il suffisait de lui trancher la tête et de l'enterrer quelque part. Parce qu'on ne peut décemment pas le laisser s'enfuir. Parce qu'il nous dénoncerait illico à une agence de répression politique nazillonne qui nous traquerait comme des chiens.
Tout Jésus, c'est ça. Las Vegas Parano, c'est à revoir et à relire, évidemment. Les éditions Robert Laffont viennent de republier Gonzo Highway, des lettres écrites et reçues par Hunter S. Thompson entre 1955 et 1976. Et c'est fascinant à lire, puisque l'écrivain a toujours mêlé sa vie et la fiction. Il est presque impossible de démêler le vrai du faux, justement. Résultat, ces lettres se lisent comme des morceaux de roman. Avec nous pour en parler, un autre héros de la littérature mondiale, plus discret et pourtant flamboyant, l'écrivain et traducteur Nicolas Richard est avec nous. Bonjour Nicolas Richard.
Bonjour Nicolas.
Vous avez traduit Hunter Thompson, donc, mais aussi Thomas Pynchon ou Jack Kerouac, Richard Brautigan et même Bruce Springsteen. Juste un mot avant de rentrer dans le cœur du sujet. Thompson, c'est une sacrée responsabilité quand même de traduire tous ces monstres sacrés. C'est-à-dire qu'en France, on les découvre et on les lit par vos mots finalement. Vous y pensez en traduisant? C'est quelque chose qui pèse pendant la traduction, pendant votre travail?
À chaque instant, oui.
Ah oui.
En fait, je lis l'anglais et... Ben, j'essaie de rendre justice au texte, donc évidemment, c'est pas un travail dans mon coin. L'idée, c'est quand même qu'à l'arrivée, je livre en français quelque chose qui correspond parfaitement à ce qu'a écrit l'auteur.
Donc vous les sentez derrière votre épaule, quoi, les grands auteurs américains qui vous regardent en train de traduire?
Ben, en tout cas, je suis emporté par leur enthousiasme et j'essaie de faire en sorte qu'on s'y retrouve en français.
Mmh. Vous y arrivez bien, cela dit. Moi qui essaye de lire dans les deux langues, parfois. Alors, Hunter Thompson, Gonzo Highway, donc chez Robert Laffont, ce sont des lettres écrites par Thompson. Il y a quelques-unes de ces lettres qui sont des lettres reçues. Qu'est-ce que le Gonzo, au fait, Nicolas Richard? Ça n'a rien à voir avec la correspondance, d'ailleurs.
Si, ça a à voir dans le sens où, initialement, d'après Hunter Thompson, c'est une notion qui a été inventée par un journaliste du Boston Globe. Et apparemment, ça viendrait de l'argot irlandais parlé dans les bas-fonds de Boston. Et ça désignerait, dans une beuverie, le dernier qui réussit à tenir debout au petit matin.
Alors, je reformule. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par Gonzo, le style Gonzo?
Alors, ce que, en tout cas, Hunter Thompson entend, lui, par Gonzo, et c'est assez épatant, effectivement, parce qu'il a, finalement, il a réussi à il a inventé une marque, en fait. Il a, il a, il a défini son propre genre littéraire. En gros, c'est très lié à ce qu'on a pu appeler aussi nouveau journalisme, c'est-à-dire rendre compte de l'actualité en s'immergeant totalement dans ce dont on parle. Hunter Thompson était très influencé par Faulkner, et c'est de Faulkner, je crois, qu'il tirait la notion que en faisant le détour par la fiction, en fait, on peut être plus vrai que journaliste.
Ah, vous m'avez devancé, parce qu'il écrit une lettre à Faulkner, et effectivement, dans l'introduction du livre, l'un de ses rédacteurs en chef et amis raconte comment son amitié a commencé avec Hunter Thompson et combien il pense qu'au fond, il n'a jamais été journaliste, que c'était un écrivain de fiction, et c'est tout, et tant mieux d'ailleurs. Et il cite effectivement Faulkner qui dit que la meilleure fiction est bien plus vraie que n'importe quel journalisme, ce que les meilleurs journalistes ont toujours su. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Bah, c'est intéressant parce qu'en fait, il réussit à créer un genre littéraire dont il est pratiquement le seul représentant, parce qu'il est à côté de Tom Wolfe, il est à côté de Norman Mailer, il est peut-être dans la lignée de Mencken à l'époque, ce qu'on appelait les mudrakers, c'est-à-dire les fouteurs de merde. Donc, finalement, il fait du journalisme, mais avec un souffle et une ultra-subjectivité. Donc il est un peu à l'encontre des codes d'un journalisme qui se voudrait objectif, c'est-à-dire que comme s'il avait intuitivement totalement intégré le fait que l'objectivité est toujours discutable et problématique, et que lui se rend compte que plus il sera subjectif, plus il sera lui-même, plus il touchera peut-être un petit quelque chose de précieux et d'unique.
Mais il a été journaliste, dans le sens où il a quand même travaillé pour des journaux énormément. C'est ce qui l'a fait vivre, d'abord.
Toujours. C'est ce qu'on voit dans sa correspondance, qui commence donc à l'époque où il est lycéen, ou même peut-être collégien. C'est-à-dire que d'emblée, il a envie d'écrire. Et très rapidement, il est journaliste au sens où il est inspiré par un sujet, il écrit dessus, et ensuite il essaie de le vendre. C'est un peu le journalisme mythique. Et en particulier, au tout début des années 60, il se retrouve en Amérique du Sud, par ses propres moyens, sans aucun budget, et il écrit sur des sujets qu'il passionne, et ensuite, il essaye de les fourguer.
Ça commence aussi avec le rédacteur en chef de San Juan, à Porto Rico. On est tout de suite dans le personnage Thompson, puisque Thompson lui écrit des lettres en lui disant que de toute façon, c'est que des branquignoles, et que lui, il sait faire, et qu'il va débarquer, et qu'il a intérêt à lui trouver une place. Et le type devrait ne rien répondre, en fait, ou alors lui répondre que ça ne l'intéresse pas. Mais en fait, le rédacteur en chef est un malin, et il l'insulte plus ou moins en retour, et donc Thompson adore ça, et il vient, et ils deviennent amis comme ça. C'est ce côté écorché vif chez lui qui plaît beaucoup aussi, qui est séduisant, qui est attachant.
Oui, mais alors ce qu'on voit au fil des lettres et ce qu'on lit dans ses textes, c'est pas tant le côté écorché vif finalement que le côté débordant d'énergie et fasciné. Il y a un sujet, là, en arrivant, je relisais certaines lettres, et il y a un sujet finalement qui a l'air de... il me semble qu'il l'intéresse du début à la fin, c'est le pouvoir. Donc, en un certain sens, évidemment, le pouvoir que peut lui procurer le journalisme, mais surtout le pouvoir politique. Et c'est ça son sujet, en fait. Et le Watergate, Nixon, Carter par la suite. Et du coup, ces lettres, c'est une façon de reprendre l'histoire politique américaine par le petit bout de la lorgnette, en un sens.
Et il ne se prive pas d'écrire au président. On va en reparler dans un instant.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue toujours avec Nicolas Richard, le traducteur de Hunter Thompson. Les lettres de l'écrivain de l'auteur de Las Vegas Parano viennent d'être republiées dans la superbe collection Pavillon Poche chez Robert Laffont. Hunter Thompson, je l'ai dit, c'est Las Vegas Parano, mais c'est aussi Rome Express, moins connu, mais également adapté avec Johnny Depp au cinéma.
Porto Rico. Je suis venu ici pour trouver une histoire.
Ça s'appelle le journalisme.
Votre CV, hein ? Ne soyez pas si nerveux. Je ne vous paierai pas l'hôtel si je ne vous avais pas déjà engagé.
J'ai trouvé le plus étrange des paradis terrestres.
Ça y est, t'as trouvé ?
Un endroit où vos secrets s'affolent.
Ne fixe pas sa moumoute.
Et le vaudou opère sa magie.
Nicolas Richard, vous êtes donc le traducteur d'Hunter Thompson. Vous le connaissait très bien le personnage. C'est son premier roman, Rome Express. Il en parle d'ailleurs, on en parle dans le livre. Il essaye de l'écrire sans arrêt, mais il repousse parce qu'il faut qu'il travaille, il faut quand même qu'il gagne un peu d'argent pour vivre, même s'il vit de peu. Il a peur, au fond, de publier son premier roman.
Alors, tel que j'ai compris les choses, c'est pas tellement qu'il a peur, c'est qu'il n'arrive pas à publier son premier roman. Il le rebosse constamment, tout au fil des décennies, il en reparle.
Oui, mais quand il a des propositions d'éditeurs, il dit « Ah mais non, finalement, c'est pas encore tout à fait prêt », comme s'il n'osait pas y aller.
Alors, bon, je suis pas dans le secret des dieux, mais j'en ai discuté avec son fils qui a écrit un...
Quand même.
Peut-être, lui, il n'était pas né à l'époque, mais c'est assez amusant parce qu'en fait, Ron Thompson, le fils de Hunter Thompson, dit « Mon père n'a écrit qu'un seul roman ». Ah. Mon père, c'est le premier, Rum Diary.
Le reste, c'est des reportages en
voilà,
forme de
pour
roman,
lui,
quoi.
Le reste, c'est autre chose. Et c'est très étonnant parce qu'en fait, c'est finalement ce qu'il a eu le plus de mal à publier. Et en revanche, tous ces écrits politiques, en particulier dans les années 70, qui sont ressortis en France aux éditions Tristram, il y a 4 volumes, je crois, et c'est absolument passionnant parce qu'il rentre dans le détail de la politique américaine. Bon, c'est autre chose.
Alors, effectivement, il se mêle de politique et on le voit aussi dans sa correspondance. Il écrit à Jimmy Carter, qui est bientôt président des États-Unis, et cette lettre-là se termine par, je cite, « Paf ! Cette lettre est trop longue. Je pense donc que je vais en rester là. Ce que j'ai à ajouter peut attendre, bien à vous. » C'est quand même un type important, Jimmy Carter, même s'il n'est pas encore tout à fait président à l'époque. Mais il n'y a jamais de déférence chez Thompson.
Alors si, parce qu'en fait, donc cette lettre, il me semble qu'il l'envoie juste avant l'élection, en 76. Oui. Et c'est vraiment intéressant parce que Hunter Thompson n'est pas seulement critique, il n'est pas seulement du côté du commentaire. Il s'implique lui-même en politique. Il a une détestation farouche pour Nixon, même s'il est un des très rares journalistes à avoir obtenu un entretien exclusif avec Nixon dans le New Hampshire, à la Condition Express, qui parle exclusivement de football. Et donc là, il y a un moment dont il a beaucoup reparlé. Donc il le déteste cordialement. En revanche, il s'investit aussi, et lui-même, en 1970, je crois, va se présenter au poste de shérif à Aspen, en Californie.
Aussi, oui.
Et donc ça, voilà, dans la correspondance, on en parle. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il y a tout un programme. Et c'est une notion qui paraît un peu...
On ne se l'imagine pas du tout en représentant de la loi, quoi.
Bah oui, non, mais
ou
justement, il ironise
quoi que ce
là-dessus.
Soit, d'ailleurs.
Il dit c'est le parti des drogués. Mais alors, un des critères du parti des drogués, ce sera... de faire circuler que de la bonne drogue. Et donc, c'est un personnage qui est assez difficile à saisir aujourd'hui parce qu'il incarne ce que le magazine Rolling Stones a appelé le vaude rock'n'roll. Il incarne le parti des drogués. C'est un sujet dont il parle beaucoup. Et pour autant, c'est un type qui adore les armes, qui est bien sûr inscrit à la NRA, National Rifle Association, qui dit qu'il comprend bien Ronald Reagan parce que lui aussi a baigné toute son enfance dans la Bible. Et donc, c'est un personnage qui est assez difficile à saisir et du coup c'est au fil des lettres qu'on commence à saisir les contours d'une pensée qui est finalement assez déroutante.
Mais il est proche de Jimmy Carter ou pas?
Oui, tout à fait. Et puis,
ils se connaissent.
Alors, est-ce qu'ils se connaissent, je ne sais pas, mais je sais que quelques années avant, déjà, il milite très, avec D'accord. beaucoup de ferveur pour McGovern. Pour lui, il faut absolument que le Parti républicain saute. Donc, voilà.
Mais justement, il écrit à Lyndon Johnson aussi, qui est donc le président... des États-Unis en 1966. C'est celui qui a donc pris la suite de Kennedy après l'assassinat. Et lui demande, c'est une lettre qui lui demande de retirer les troupes du Vietnam. Et ça se termine comme ça. Je suppose que ce message sera classé dans la catégorie courrier subversif. Et je crois savoir que vous faites suivre ce type de courrier au FBI. Si mon désir d'éviter une guerre en Asie fait de moi un élément subversif, alors vous avez mon adresse et vous pouvez me ficher avec Eisenhower et MacArthur. Salutations. Hunter Thompson, ouais. Qu'est-ce qu'il espère quand il écrit ça au président?
Ben, en fait, il est conscient, et là aussi, ça a une résonance incroyable aujourd'hui à l'ère Trump. Il est conscient que tout peut avoir un impact. Il est conscient, l'Amérique commence à être différemment médiatisée. Il y a effectivement ce qu'on a appelé à l'époque le vote jeune, qui n'était pas identifié à l'époque, qui n'était pas repéré par les radars. Il commence à être conscient que ça représente quelque chose et il sait que la politique... Alors, il est fasciné par les campagnes électorales. Il est un des rares, à ma connaissance, très tôt, à avoir parlé de politique en termes de drogue, littéralement. C'est-à-dire d'addiction, en disant les hommes politiques, Il y a le discours, il y a les programmes apparents, mais c'est des types qui sont accros au pouvoir. Et ça, finalement, je trouve que c'est d'une pertinence incroyable aujourd'hui.
Quand je vous ai dit qu'on allait parler de Thompson et de la politique, vous m'avez dit « il y a un truc qu'il faut que je cite ».
Oui, alors du coup, on s'éloigne un tout petit peu de la politique, mais pour montrer aussi à quel point il est respectueux de ceux qu'il aime respecter, mais tout à fait méprisant pour les autres, il y a une petite phrase sur John Wayne, l'acteur John Wayne, qu'on trouve dans une des lettres, qui me semble était inédite. Donc voilà ce qu'il dit à propos de John Wayne. « Ce pays est si fondamentalement pourri qu'un sale bigot comme John Wayne y est un grand héros national. John Wayne est le dernier symbole avarié de tout ce qui a foiré dans le rêve américain. Il est notre monstre de Frankenstein, un héros pour des millions d'individus. Wayne est l'ultime américain, voire l'américain final. Il bousille tout ce qu'il ne pige pas. »
Ah oui, voilà. C'est violent.
Et du coup, en relisant ça, je me suis dit, tiens, c'est marrant, est-ce qu'en fait, dans les années 60, Hunter Thompson n'est pas en train de parler de l'Amérique d'aujourd'hui, de l'année 2020. Et là, j'avais l'impression que d'une certaine manière, il y avait presque une définition de Donald Trump.
Ah oui. Mais justement, Hunter Thompson, effectivement, on traverse les années 60 avec lui. Il se connaissait avec John Baez. Ouais. Et il y a d'ailleurs une lettre de Hunter Thompson à John Baez. Comment ils se connaissent?
Alors, ils se connaissent au tout début des années 60 à Big Sur.
Donc
il côtoie Big Sur,
c'est sur les bords du Pacifique.
Voilà, c'est ça, au sud de San Francisco, à 2 heures à peu près de San Francisco.
Qui était repère de la Beat Generation. En fait.
Voilà, plus ou moins. Il y a eu plusieurs générations, mais il y a Henry Miller qui s'y est installé après-guerre, Jack Kerouac a écrit un Big Sur, Richard Brautigan a écrit un Big Sur, et c'est en fait un lieu extrêmement sauvage, même encore aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent, c'est des petites cahutes en pleine nature face à l'océan. Et effectivement, John Baez a été sa voisine.
Et voilà ce qu'il écrit à John Baez le 19 janvier 1966. « Cher Johnny, après avoir passé presque un an à écrire un livre sur les Hells Angels, j'en ai marre de la violence et j'envisage sérieusement d'essayer ton école, c'est-à-dire la non-violence.
Ouais. » À mon avis, ça a été un vœu pieux, ça, hein, parce qu'il a toujours, il a toujours été du côté de la haute énergie. Et
il ne peut pas s'empêcher.
Chercher la bagarre. Ouais.
Les Hells Angels, comment ça s'est passé rapidement?
C'est un de ses grands hits
aussi.
Alors, ça c'est marrant parce que c'est tout à fait typique de Hunter Thompson. C'est un article qui lui est commandé. Donc, un article journalistique. Tiens, si on allait voir ce que c'était que ces motards voyous. Et puis, en fait, le sujet le passionne tellement qu'il va s'immerger littéralement dans les gangs de Hells Angels. Et c'est le premier livre qui sort. C'est un véritable best-seller. Mmh. Je crois qu'il en vend 500 000 exemplaires. Il a 27 ans. Donc c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est ça qui est absolument passionnant, c'est que c'est pas juste un loufoque dans son coin, c'est un type qui arrive à choper l'air du temps d'une certaine manière, et ce qui est le paradoxe qui est encore plus fascinant, c'est qu'il chope l'air du temps dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80, et aujourd'hui ça a une résonance formidable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, surtout de France, on a l'impression d'avoir on a toujours une Amérique un peu stéréotypée, on est toujours dans des clichés de clichés. En se replongeant dans ce qu'il écrit à chaud en 60, 70, 80, finalement, on en apprend sur l'Amérique d'aujourd'hui.
Et alors, pour terminer, je voudrais quand même qu'on évoque, c'est un peu triste, mais bon, c'est comme ça, c'est la fin, c'est son suicide en 2005. Il est mort donc, et il avait une dernière volonté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que ça correspond quand même tout à fait au personnage.
Oui, alors c'est pendant plusieurs années, il avait il envisageait sa mort et il voulait en faire l'ultime scène du dernier acte. Et il voulait que ses cendres soient projetées par un canon sur sa propriété, là, dans le Colorado.
Du haut d'une tour.
Voilà, c'est ça, du haut d'une tour. Et donc, grâce à la connivence de plusieurs de ses amis à Hollywood, puisque Las Vegas Parano, Fear and Loathing in Las Vegas, a été un film à succès aussi. Donc, le retentissement, l'influence de Hunter Thompson s'est élargie grâce à Hollywood. Et donc, voilà, ses amis de...
Dont Johnny Depp.
Dont l'acteur Johnny Depp ont fait en sorte que son vœu se réalise.
Et donc, ces cendres ont été dispersées, elles ont été tirées par un canon en haut d'une tour. C'est quand même...
Voilà, et le détail est raconté dans le mémoire de son fils Ron Thompson.
Et si on veut en savoir plus sur Hunter Thompson, il faut lire ses lettres dans Gonzo Highway, publié chez Robert Laffont. Merci beaucoup, Nicolas Richard.
De rien.
Et bravo.
Europe 1.
Dans un instant, encore des livres. On continue sur notre lancée. Le comédien Philippe Dussault nous lira le début justement de Las Vegas Parano. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1.
La voix est libre.
Chaque semaine, nous évoquons un roman culte. Aujourd'hui, donc, Las Vegas Parano d'Hunter S. Thompson. On le disait tout à l'heure, le livre a été adapté au cinéma avec Johnny Depp. Dans le rôle de l'écrivain, c'est un voyage halluciné, hallucinant, délirant, psychédélique, mal élevé, mais drôle et plein d'énergie. À Las Vegas, je vous propose d'écouter les toutes premières pages lues par Philippe Dussault. Accrochez-vous.
Nous étions quelque part dans le coin de Barceau, aux abords du désert, quand des drogues ont commencé à nous travailler. Je me souviens que j'ai dit quelque chose du genre « Je me sens la tête un peu vide, tu ferais peut-être mieux de prendre le volant ». Puis tout d'un coup, il y a eu un énorme grondement tout autour de nous, et le ciel était rempli de choses ressemblant à des gigantesques chauves-souris qui fondaient et piquaient sur la voiture avec des cris perçants, tandis que nous foncions sur Las Vegas, capote baissée à 160 et des poussières. Il y avait une voix qui hurlait « D'où Jésus ? Mais d'où sortent ces satanés oiseaux ?» Et puis, le calme est revenu. Mon avocat avait retiré sa chemise et s'aspergé la poitrine de bière pour faciliter le processus de bronzage. « Qu'est-ce qui te prend de gueuler comme ça ?» grommela-t-il en fixant vers le soleil ses yeux fermés que recouvraient des lunettes fumées espagnoles couvrent tout. « Te tracasse pas, lui dis-je, c'est ton tour de conduire. » J'écrasai le frein et rangeai la Great Red Shark contre le talus bordant l'autoroute. Pas la peine de lui parler des chauves-souris, je me suis dit. Ce pauvre couillon ne va pas tarder à les voir venir. Il était presque midi et il ne restait pas loin de 200 km à faire. Parti comme ça, il allait falloir qu'on avale du pneu enragé. Je savais qu'on n'allait pas tarder à être aussi déglingués l'un que l'autre, mais il n'était pas question qu'on fasse demi-tour. Et on n'avait pas le temps de se reposer. Faudrait tenir jusqu'au bout. Les réservations de presse pour le fantastique Mine 400 étaient déjà ouvertes. Et il fallait absolument qu'on arrive avant 4 heures pour avoir droit à une suite insonorisée. C'était un luxueux magazine de sport new-yorkais qui s'était occupé de nos réservations, ainsi que de cet énorme Chevrolet décapotable rouge fraîchement loué sur Sunset Strip. Et après tout, j'étais journaliste de métier. J'étais donc dans l'obligation de couvrir l'événement, vaille que vaille. Les rédacteurs m'avaient également donné $300 en liquide que nous avions déjà presque entièrement dépensé pour acheter des drogues extrêmement dangereuses. Le coffre de la voiture ressemblait à un labo ambulant de la brigade des stupéfiants. Nous avions 2 sacoches d'herbe, 75 pastilles de mescaline, 5 feuilles d'acide buvard carabiné, une demi-salière de cocaïne et une galaxie complète et multicolore de remontants, tranquillisants, hurlants, désopilants. Sans oublier 1 litre de tequila, 1 litre de rhum, 1 carton de Budweiser, 1 demi-litre d'éther pur et 2 douzaines d'ampoules de nitrite d'amyle. On s'était levé ce gentil petit arsenal la veille au soir, en courant frénétiquement aux 4 coins du district de Los Angeles. De Topanga à Watts, on a raflé tout ce qui nous tombait sous la main. C'est pas qu'on avait besoin de tout ça pour notre petit voyage, mais une fois qu'on commence sérieusement une collection de drogues, on a tendance à vouloir la pousser jusqu'au bout. La seule chose qui m'inquiétait vraiment, c'est l'éther. Il n'y a rien au monde de plus désemparé, de plus irresponsable et de plus dépravé qu'un homme qui est dans l'éther jusqu'aux mirettes. Or, je me doutais bien qu'on ne tarderait pas à passer à cette saleté, dès la prochaine station-service probablement. Nous avions goûté presque tout le reste et, ma foi, l'heure était venue de se renifler un bon coup d'éther. Après, on ferait les 160 bornes qui nous restaient dans un abominable état d'abrutissement entrecoupé de spasmes et de coulées de bave. La seule façon de rester éveillé à l'éther, c'est de s'envoyer un tas d'amiles. Oh, pas tout d'un seul coup, mais régulièrement. Juste assez pour pas bouger du 140 en traversant Barstown. Ça, c'est la seule manière de voyager, mon pote, déclara mon avocat. Il se pencha pour augmenter le volume de la radio, marmonnant le concert avec la section rythmique et ou fredonnant les paroles. Il a suffi d'un clin d'œil, doux Jésus. Il a suffi d'un clin d'œil. Bougre d'andouille. Attends un peu de voir ces satanées chauves-souris, tu vas en faire un drôle de clin d'œil. D'ailleurs, j'entendais à peine la radio. Écroulée tout au bout du siège et aux prises avec un magnétophone qui sortait Sympathy for the Devil à plein volume. Let me please introduce myself. I'm a man of wealth.
C'était donc le début de Las Vegas Parano, lu par le comédien Philippe Dussault. Merci à lui. Dans un instant, encore des livres, nous partons visiter la bibliothèque de l'écrivain François-Henri Désérable. Et attention, je vous ai prévenu, il est armé.
14h-15h sur Europe 1.
La Voix est libre.
La Voix est libre continue, il est temps de quitter un peu ce studio. François-Henri Désérable a publié Évariste notamment, ou un certain Monsieur Piekielny, qui a eu beaucoup de succès lors de sa sortie il y a 2 ans, une sorte de spin-off de La Promesse de l'Aube de Romain Gary, qui est l'une des obsessions de François-Henri Désérable. Bonjour François-Henri Désérable.
Bonjour Nicolas. Merci de nous accueillir chez vous. Encore qu'on n'est pas tout à fait chez vous, on est sur le palier, mais on était obligé, j'étais obligé de m'arrêter là, puisque j'ai vu des livres, une bibliothèque sur le palier, qui, je vous rappelle, appartient à tout l'immeuble, pas seulement à vous.
Oui, mais je me suis arrogé le droit d'installer ma bibliothèque sur le palier, parce que je suis au quatrième et dernier étage, et j'ai le seul appartement à cet étage-là. Alors, j'ai remarqué que la plupart des gens pouvaient aller au bout du monde, mais on ne monte jamais au palier supérieur. Et moi-même, si j'habitais au deuxième ou au troisième étage, je ne monterais pas au quatrième. Donc je n'ai aucune crainte à avoir. Et d'ailleurs, ça fait 2-3 ans que mes livres, un certain nombre de mes livres, surtout les livres de poche, sont sur le palier et je ne m'en suis jamais fait dérober.
Oui, enfin, c'est ce que j'allais dire. Ce sont les livres de poche quand même. Vous n'êtes pas voilà, tout à fait à 200% confiant en l'individu.
Je ne mettrais pas les Pléiades ou les exemplaires originaux, les livres dédicacés sur le palier, mais il y a quand même quelques livres auxquels je tiens beaucoup parce qu'il y en a un certain nombre qui sont annotés sur lesquels j'ai travaillé. Et
quand même un peu précieux.
Ça m'emmerderait un peu de les perdre. Mais...
Ce qui est aussi un peu inquiétant, c'est qu'il y a un nécessaire feu de cheminée juste à côté, c'est-à-dire... la pelle, le petit balai et la pince.
Voilà, parce que
qu'est-ce que vous faites un feu avec vos livres
Mais ça, c'est quelque chose. En revanche, vous voyez, il y a aussi des livres sur les marges d'escalier. Et ceux-là, c'est ceux dont je veux me débarrasser. Alors oui, mais c'est parce que je l'ai en double exemplaire celui-là. Mais par contre, je préfère que vous ne parliez pas de ceux qui sont sur les marges d'escalier, parce que je ne voudrais pas me m'attirait certaines...
Mais soit parce double, que je c'est ce que je comprends.
C'est pour les offrir aussi.
D'accord.
Je les ai en double, c'est ça.
Et alors, donc, on va rentrer dans le cœur du sujet tout de suite, mais quand même, sur cette bibliothèque, sur ce palier, il y a une photo, un cadre de vous en train de jouer au hockey, parce que vous avez deux passions dans la vie, en tout cas, que je connais, c'est... Le hockey, vous avez été professionnel ?
Ça a été mon métier. J'ai commencé le hockey à 5 ans. À 18 ans, j'ai commencé une carrière de joueur de hockey professionnel. Et ça a été mon métier pendant 10 ans. J'ai arrêté il y a 3-4 ans. Et effectivement, j'ai repris en amateur. Je joue toujours 2 fois par semaine pour m'amuser. Mais pendant une dizaine d'années, c'était quelque chose qui me prenait 30 heures par semaine. Et effectivement, il y a un cadre qui est une photo assez connue d'un joueur de Boston qui s'appelle Bobby Orr.
Ah, mais je croyais que c'était vous.
Non, j'aurais aimé être Bobby Orr, qui est vraiment un des plus grands joueurs de hockey de l'histoire. Donc c'est comme si vous voyiez un livre de Victor Hugo et vous me disiez, ah, je croyais que c'était un de vos livres.
Non, mais effectivement, j'y connais rien du tout en hockey, j'aime bien. D'ailleurs, c'est pas un sport, on peut le dire sans que ce soit une injure, qui est très très populaire en France.
Surtout à Paris.
Comment vous êtes devenu hockeyeur ?
Mon père était joueur de hockey et puis il a été entraîneur de hockey. Et dès que j'ai su marcher, la seule chose que je voulais faire, c'était de patiner. Et puis j'ai pratiqué ce sport dès l'âge de 5 ans et à raison de 4 heures par jour jusqu'à 28 ans.
Et comment on arrête et pourquoi on arrête ?
Eh bien, on arrête parce que, sans doute à cause de la chose qui est juste à côté de cette photo, c'est-à-dire une map monde. Et la pratique d'un sport professionnel vous empêche de pouvoir parcourir le monde parce qu'on s'entraîne tous les jours, il y a des matchs tous les week-ends. Et je regardais la carte du monde et il y avait des tas de territoires comme ça inexplorés. Et dès que j'ai arrêté le hockey, la première chose que j'ai faite, c'est que je suis parti en Amérique du Sud pendant 6 mois sur les traces de Che Guevara. J'ai refait le voyage qu'il avait fait à moto avec Alberto Granado.
Après votre dernier livre, un certain Monsieur Piekielny.
Alors j'ai rendu le manuscrit de Piekielny et je suis parti. Donc c'était avant sa publication, mais après l'avoir rendu.
Parce que vous êtes un écrivain voyageur, on l'a pas encore dit, mais vous revenez d'où là par exemple ?
Là, j'ai pas fait de grands longs voyages particulièrement, mais en revanche je vais partir en Iran. Il est prévu que je parte 2 mois en Iran.
C'est le moment.
Voilà, sur les traces de Nicolas Bouvier, mais il se trouve que Donald Trump est peut-être en train de contrecarrer mes plans, mais j'espère que ça va se faire.
Bon, alors il y a des livres partout. Il y en a sans doute dans l'appartement. Je le sais qu'il y en a. Et donc il y a une montagne là sur le palier. Je ne sais pas trop par où commencer, mais il y en a un qui est un peu isolé des autres. C'est Albert Cohen, Belle du Seigneur, le livre que tout le monde a. Tout le monde n'a pas forcément lu,
mais
c'est ça
lu.
La beauté des classiques, c'est qu'on l'a, on connaît un peu et on ne l'a pas forcément lu.
C'est peut-être le plus gros livre en poche, il fait 1111 pages dans l'édition Folio, et moi c'est le livre qui m'a donné envie d'écrire. J'avais 18 ans, j'embrasse cette carrière de joueur de hockey, et en même temps je fais des études de droit, et je m'ennuie assez rapidement sur les bancs de la fac de droit. Et je rentre dans une bibliothèque, et je choisis le plus gros livre que je puisse trouver. Et c'était Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Et en refermant le livre, je l'ai lu en une semaine, Et en le refermant, j'ai dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux être écrivain. Donc, c'est vraiment...
C'était le langage, c'était quoi? C'était la manière de prendre le lecteur, c'était l'histoire d'amour, c'était...
J'ai découvert qu'un livre pouvait être très drôle. Et je pense notamment aux journées d'Adrien Deume passées à ne rien faire à la Société des Nations. J'ai découvert qu'on pouvait s'amuser avec la langue, puisqu'il y a différents registres de langage. Il y a, dans Belle du Seigneur, il y a les passages très quasi bibliques lorsque Cohen évoque les Valeureux, qui sont les oncles de Solal. Et puis il y a des passages sans aucune ponctuation, les monologues de Mariette, par exemple, la servante d'Ariane. Et puis c'est un livre qui est très drôle et très émouvant. C'est la première fois que j'ai pleuré à la lecture d'un livre. C'est même l'une des seules fois. Mmh. C'est l'un des seuls livres qui m'a fait pleurer. L'autre étant un livre d'Emmanuel Carrère, D'autres vies que la mienne.
Mais c'est ça la gageure d'un écrivain. C'est ça ce qui est extrêmement compliqué, quoi. C'est de susciter chez un lecteur une émotion physique. Rire aux éclats en lisant un livre ou pleurer réellement, c'est très, très...
Oui, de susciter un grand rire entremêlé de sanglots. Et quand les émotions s'entremêlent comme ça, je crois que l'écrivain a réussi son coup. Ça fait mouche.
Il y a toute la collecte de Jean Giono aussi, je vois.
Oui, il y a pas mal de Jean Giono. Je suis allé... voir sa maison. J'avais rendu visite à un ami qui s'appelle Miguel Bonnefoy à Manosque.
Très bon écrivain également.
Et j'ai pu. Alors là, on a pu visiter sa bibliothèque. Et Giono prenait beaucoup de notes dans les ouvrages qu'il avait. Et dans un ouvrage la personne qui nous fait visiter la maison nous montre. Un livre nous montre le hussard sur le toit, et il y a une phrase en italique dans le hussard sur le toit. Et on ne savait pas d'où elle venait, cette phrase. Alors je tape sur Google la phrase, je la retrouve, elle se trouve dans Voltaire, dans un livre de Voltaire. On prend le livre de Voltaire dans la bibliothèque de Giono, et on tourne toutes les pages, et il y avait une page qui était cornée, et se retrouvait la citation qui était dans le hussard sur le toit. Donc ça, c'est quelque chose qui peut-être plaide pour le livre papier, parce que c'est une émotion que je n'aurais pas eue. De voir cette page cornée avec un livre électronique.
Ça et les manuscrits, mais vous, par exemple, vous écrivez sur ordinateur.
Moi, j'écris à l'ordinateur, oui.
Et c'est fini, en fait, les manuscrits, parce que vous n'êtes pas le seul. 99% des écrivains aujourd'hui écrivent sur ordinateur.
Oui, c'est-à-dire que le temps où on trempait sa plume dans l'encrier, c'est terminé, on écrit à l'ordinateur. Après, tout n'est pas perdu. Je crois que les différentes strates du travail sont sauvegardées, puisqu'on fait des sauvegardes. Donc on peut retrouver comme ça toute la genèse d'un livre autant qu'avec un manuscrit.
Vous parliez de la page cornée de Giono. Est-ce que vous cornez tous les livres ou vous les griffonnez tous? Moi, ou seulement les poches?
Je ne corne pas, mais j'annote avec un crayon à papier. J'ai toujours un crayon à papier lorsque je le lis. Et je crois qu'un bon livre... est un livre que j'ai beaucoup annoté.
Pas forcément à poche, ça peut être n'importe quel livre.
Ça peut être n'importe quel livre, ouais, même les Pléiades, je les annote. Et je, à tel point que certains livres, je pourrais rajouter mon nom sous le nom de l'écrivain. Et parfois, il faudrait ajouter le nom du lecteur sous celui de l'écrivain, oui, puisque je l'ai coécrit dans la marge.
Ça, c'était une idée de Calvino, ça, je crois.
Je ne savais pas.
Pourquoi au crayon à papier ou au crayon de bois? Il y a deux écoles. Pourquoi pas un bic? Parce que, est-ce que vous avez déjà effacé vos annotations?
Non, ça ne m'est pas encore arrivé, mais je me laisse la possibilité de le faire. Et le bic, non, il y a quelque chose d'un peu trop... agressif et immuable dans le bic. Oui, le crayon à papier, le crayon de bois, on peut toujours l'effacer.
On peut rentrer, voir la suite? Donc on est dans un appartement, j'ai pas dit, mais on est du côté de Montmartre, avec une vue très très typique, limite cliché, de toit en zinc, très très parisien, c'est très très beau.
Mais c'est pas parisien, moi je suis pour la commune libre de Montmartre, donc je suis un séparatiste montmartrois, et cette butte galbée comme un saint n'a rien à voir avec la platitude parisienne.
Alors tout de suite, il y a toutes vos obsessions qui nous saute aux yeux, il y a un portrait de Rimbaud.
Alors c'est un portrait de Rimbaud, mais si on se décale, ça devient un portrait de Verlaine.
Oh, dites donc, ah oui, ce sont des... Ah oui.
Un artiste qui s'appelle Zapata.
Ah, c'est magnifique. On a Rimbaud et Verlaine dans la même toile, mais pas au même moment. Il faut se mettre ou tout à droite du tableau ou tout à gauche pour le voir en biais, en fait.
Il y a ce tableau-là. Avant, à cette place-là, il y avait la lettre de Romain Gary, mais que j'ai reléguée dans la cuisine parce que son regard... Il y a une photo à côté.
Bon, il faut qu'on voit ça, quand même.
Son regard était trop intimidant.
C'est une lettre encadrée de Romain Gary.
C'est une lettre de Romain Gary à une dame qui s'appelle Danielle.
Authentique, hein, bien sûr.
Authentique, évidemment. Je ne sais pas, une copie. Et de 1973, du 30 août 1973, donc 9 ans avant la mort de Gary, alors qu'il commence à écrire les livres sous le pseudonyme d'Émile Ajar. Et dans cette lettre, il fait le point sur ses travaux. Il parle de chiens blancs, d'adieu Gary Cooper, des oiseaux vont mourir au Pérou. Et à côté, il y a une photo qui est un tirage argentique. Et je suis le seul possesseur de cette photo.
D'où ça vient, cette passion pour Romain Gary? Je rappelle que votre dernier roman, Un certain Monsieur Piecchiani, qui est sorti il y a trois ans, c'était... Monsieur Piecchiani, c'est un des personnages de La promesse de l'aube de Romain Gary. Et c'était aussi un prétexte
pour parler de
La promesse de l'aube et de Gary.
Ben, ça vient tout simplement de ma lecture de La promesse de l'aube. J'avais 16 ou 17 ans. C'était un âge auquel je lisais assez peu. Et c'était au programme du bac de français. Et c'est le seul livre que j'ai lu cette année-là. Et je suis allé à l'oral du bac, comme le condamné à mort à qui on a lié les mains dans le dos, à qui on a bandé les yeux et qui attend la salve du peloton d'exécution. Et par miracle, je suis tombé sur La promesse de l'aube. Et je crois que j'en ai conçu un amour démesuré pour Gary à partir de là. Et j'ai lu toute son œuvre à la suite de ma lecture de La promesse de l'aube.
Vous avez un comptoir là qui sépare votre cuisine de votre salon. Ça vous arrive d'écrire sur ce comptoir?
Jamais.
Ou c'est plutôt au
non,
bureau, vraiment très installé?
Au bureau, toujours dans le silence, toujours au bureau. Et en revanche, je passe beaucoup de temps. Mais là où je passe le plus de temps, c'est pas sur ce bureau, c'est sur le canapé.
Sur la méridienne.
Ouais, parce que je crois qu'une des raisons pour lesquelles je suis devenu écrivain, c'est pour justifier les heures allongées sur un canapé, un livre à la main. Et donc c'est plutôt parce que je suis avant tout... je passe plus d'heures à lire qu'à écrire.
Oui, c'est comme mon métier. Personne ne peut nous reprocher de passer notre temps à lire. C'est quand même
plutôt sympa. C'est pour ça que vous avez le meilleur métier du monde.
En revanche, attention, parce que vous avez un pistolet sur votre bureau.
Oui, j'ai un revolver. Mais alors ça, je vous prie de ne pas le crier trop fort à la radio parce que je n'ai pas de port d'armes. Et
c'est vrai ?
C'est le Faucheux de 1870. Et certains prétendent que c'est celui avec lequel Verlaine a tiré sur Rimbaud à Bruxelles.
Pourquoi vous avez ça chez vous?
Parce que c'est un élément de mon prochain roman. Et j'avais besoin de l'avoir avec moi.
Où est-ce qu'on trouve ça?
Écoutez, soit on peut l'acheter chez Christie's lorsqu'il est mis en vente. Il est parti à 430 000 euros.
Oui, une paille.
Une paille. Et si on n'a pas les 430 000 euros, on peut acheter le même modèle sur un site de vente en ligne. Et c'est beaucoup
moins cher. Ça, on ne saura pas lequel.
On ne saura pas si celui-là est passé entre les mains de Verlaine ou pas.
Et vous nous racontez cette histoire d'ailleurs de Verlaine qui tire sur Rimbaud?
Eh bien, Verlaine se retrouve à Bruxelles. Il écrit une lettre à sa femme. Il lui dit si tu ne viens pas me voir avant 3 jours, je me brûlerai la cervelle. Pour se brûler la cervelle, il va acheter un revolver, donc un Le Faucheux à 6 coups, chez un armurier des Galeries Saint-Hubert à Bruxelles. Rimbaud le rejoint. Ils boivent beaucoup. Il rentre dans sa chambre d'hôtel, donc dans la chambre d'hôtel de Verlaine, l'hôtel à la ville de Courtrai. Et Rimbaud dit à Verlaine qu'il a envie de rentrer en Paris, qu'il a envie de repartir. Verlaine sort le revolver et dit « Voilà pour toi, puisque tu pars ». Et là, il tire 2 balles. L'une vient se loger dans le plancher, l'autre dans le poignet gauche, je crois, ou droit de Rimbaud, je ne sais plus. Et Verlaine, quelques heures plus tard, est arrêté sur le quai d'une gare parce qu'il est encore en train de menacer Rimbaud et il va faire quand même 2 ans de prison. Et ils ne se reverront qu'une seule fois à Stuttgart en 1875. Ils passeront 2 jours et demi ensemble. Et à la mort de Rimbaud, Verlaine aura cette très belle phrase. Il dira « Son souvenir est un soleil qui flambe en moi et ne veut pas s'éteindre ». Donc 15 ans après l'avoir vu pour la dernière fois.
Il y a la correspondance de Camus et Cazares.
C'est très beau, c'est magnifique.
Il y a la correspondance à côté de Morand et Jacques Chardon.
Oui, alors c'est pas du tout...
Vous écrivez des lettres, vous, ou pas?
Il m'arrive d'en écrire.
Pour en retrouver ou pas?
Il m'arrive...
C'est que des mails qu'on ne retrouvera jamais.
Non, il m'est arrivé d'écrire des lettres. Regardez, je vais vous en montrer une. La dernière lettre que j'ai écrite, on n'y a pas répondu. La personne à qui je l'ai écrite n'y a pas répondu, mais me l'a renvoyée comme ça.
avec des baisers.
Voilà. Un stylet de traces de marques de rouge à lèvres.
C'est une poète qui vous a répondu ?
Ouais, je ne sais pas. Si vous considérez que des traces de rouge à lèvres, c'est de la poésie ?
Un peu, non ?
Moi, je trouve que oui. Alors, ou c'est une peintre, peut-être.
Oui, éventuellement.
C'est de l'abstraction figurative.
Mais alors, les baisers, ce sont sur des passages particulièrement romantiques ou touchants ?
Non, c'est presque...
D'accord. ça peut être aussi de la feignantise. Hein. Et une bonne idée peut sauver un peu de travail aussi, parfois.
C'est possible, oui. ça peut être un moyen de m'éconduire avec grâce.
on vous laisse là. On vous embrasse, François.
Moi aussi, je vous embrasse.
Merci beaucoup.
Europe 1.
De retour en studio, merci à Thomas Roussel pour la prise de son. Restez là, les libraires de La Voix est Libre arrivent avec deux bonnes idées de lecture. À tout de suite.
La Voix est Libre. Nicolas Caro.
Retour dans La Voix est Libre, il est l'heure de flâner dans les rayons des librairies. Le libraire est venu, il a dit « je peux vous aider ». Et on a dit oui cette fois parce qu'on a reconnu Anne-Sophie Rouvelou de la librairie L'Infini Comédie à Bourg-la-Reine et l'infatigable Christophe Daniel de la librairie La 25e Heure à Paris. Salut les libraires.
Salut Nicolas.
Salut.
On commence par vous Anne-Sophie, un roman nigérian.
Ouais, une véritable découverte. Vous allez voir, c'est très riche. Carrément. Et très foisonnant. Et du coup, ça s'appelle « La prière des oiseaux » de Chigozie Obioma. C'est paru chez Buchet-Chastel.
C'est joli.
Ouais, c'est magnifique. Et ça démarre avec un jeune homme qui s'appelle Chinonzo, qui est un éleveur de volailles. Donc, on est au Nigeria. Et un jour, il va voir une jeune femme qui est sur le point de sauter d'un pont. Il va l'arrêter et ils vont tomber fous amoureux. Donc, comme ça, ça a l'air de démarrer sur les chapeaux de roue. C'est que le début. Parce qu'en fait, cette jeune femme, elle vient d'un milieu qui est chrétien, très riche. Elle se destine à être pharmacienne, elle fait des études. Chinonzo, lui, c'est un simple fermier qui n'a pas fait d'études. Et les parents de la jeune femme, qui s'appelle Ndali, ils vont s'opposer à cette union. Et ils vont vraiment humilier et menacer Chinonzo. Ça va aller très très loin.
Ça se passe de nos jours ?
Ça se passe, oui, de nos jours. Et Chinonzo, en fait, il va décider d'essayer de remonter un petit peu dans l'estime de ses beaux-parents. Donc, il décide de tout lâcher par amour et de partir à Chypre pour reprendre ses études. Sauf que, je ne peux pas trop vous en dire, mais arrivé à Chypre, il perd tout son argent. Il va se faire carrément arnaquer. Chypre, il a un petit peu du mal à s'adapter aussi. Et il va se produire un drame. Donc, ça va être une véritable, entre guillemets, descente aux enfers. Mmh. Comme ça fait très... comment dire, assez mortel ce que je dis, mais c'est vraiment, c'est pas que ça, parce que c'est un récit d'une histoire d'amour qui est magnifique et impossible aussi. C'est aussi l'histoire de Chinonzo qui essaie de s'élever, malgré tout, de s'extraire un petit peu de sa condition, donc c'est très intéressant par rapport à ça. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que l'histoire, elle est racontée par le chi de Chinonzo. Donc je sais pas si vous savez ce que c'est que le chi, moi je ne savais pas. C'est la mythologie nigériane en fait, c'est un petit peu son ange gardien. Okay. Et ça introduit un peu de malice parce que le chi, il voit tout ce qui se passe, il nous raconte
une sorte
l'histoire.
De fantôme quoi.
Un petit peu, et c'est un petit peu comme son âme en fait. Donc il peut l'influencer, lui dire tu devrais pas faire ça, etc. Mais il peut pas l'empêcher de foncer vers les ennuis. Donc ça introduit comme ça une sorte de double discours.
Ouais,
il y a le monde humain, le monde des esprits, et c'est extrêmement foisonnant et vraiment surprenant. C'est un véritable coup de cœur.
On change d'ambiance avec vous, Christophe Daniel. Vous avez un roman de la collection La Noire chez Gallimard.
L'excellente collection La Noire chez Gallimard. Un roman de Shelby Foote qui s'intitule September, September.
En anglais.
September, September, parce que l'histoire qui est racontée se passe en 1957. À Memphis, dans le Tennessee, et elle est racontée 20 ans après, un autre mois de septembre, mais donc 20 ans après, et qu'est-ce que raconte ce roman ? On va suivre trois apprentis criminels, pas super doués, on va dire, qui ont pour projet de kidnapper un enfant, mais kidnapper un enfant d'une famille noire, bourgeoise, de Memphis. Alors on les suit dans la préparation de ce kidnapping, ensuite l'exécution de ce kidnapping et les conséquences. Et Shelby Foote a une manière de raconter cette histoire qui est, la trame est assez classique, mais la narration est totalement passionnante et riche. C'est-à-dire qu'il y a ce narrateur qui raconte les faits, et puis il y a aussi tous les protagonistes qui livrent leur récit de ce qui se passe. C'est passionnant, avec en toile de fond, comme Shelby Foote dans tous ses romans, il y a l'histoire des États-Unis et du sud des États-Unis. Là, en 57, on est dans les luttes raciales, le Ku Klux Klan et tout ce background. Et c'est vraiment un roman très noir, passionnant, avec une narration subtile et voilà, des tensions entre ces trois criminels, mais des tensions aussi dans la famille du garçon noir. C'est voilà, je vous encourage vraiment à lire ce livre. Je voudrais dire aussi que de Shelby Foote, les éditions Rue d'Ulm ont fait paraître un de ses romans qui s'appelle L'amour en saison sèche, et c'est aussi un magnifique roman.
Dans ce titre. La Noire, justement, la collection mythique de Gallimard a ressuscité il y a quoi, 6 mois, 1 an?
Oui.
Est-ce que ça a repris chez les clients dans la librairie? Est-ce qu'on la redemande? Est-ce que les clients l'ont réidentifié?
Alors, à la 25e heure, je dois dire que moi, j'ai beaucoup aimé toutes les parutions de la Nouvelle Noire. Donc, je conseille...
j'avais parlé de Sébastien Ruttès. Qui est encore différente que la série Noire, encore. C'est encore autre chose.
Ah, c'est différent de la série Noire, oui. Là, on est dans le roman noir qui est... Il n'y a pas les mêmes codes que dans le roman policier et la série Noire.
Mais elle repart. Ouais. Anne-Sophie, pareil.
Ouais, les clients sont attentifs et nous, ça nous permet de redécouvrir des textes, de les remettre en avant. Donc ouais, ça crée un joli petit événement.
Je reprends juste les titres de vos livres, Anne-Sophie.
La prière des oiseaux de Shigosi Obioma, c'est paru chez Bûcher Chastel.
Parfait. Et Christophe?
September, September de Shelby Foote, donc dans la Noire chez Gallimard.
Et on retrouve ces romans dans vos librairies respectives. Librairie L'Infini Comédie à Bourg-la-Reine et La 25e Heure à Paris. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Direction le rayon jeunesse maintenant avec Victor Dolande. À tout de suite.
Il était une fois.
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 Dernier chapitre de cette émission, on retrouve le conseil littérature jeunesse de Victor Dolande. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Et aujourd'hui, vous nous présentez le livret d'une pièce de théâtre intitulée « J'ai trop d'amis ». De David Lescot.
Oui, c'est la suite de J'ai trop peur, une première pièce de théâtre écrite par David Lescot sur le passage du CM2 à la 6e, incarné par un garçon pétri d'angoisse avant son entrée au collège. Alors pas de panique, hein, pas besoin d'avoir lu la première pièce pour apprécier J'ai trop d'amis. On suit le même garçon dès son premier jour de classe, avec d'abord cette angoisse qu'on a tous vécu un jour. Est-ce que je vais retrouver tous mes copains et copines du CM2 ? Sauf que pour notre héros, ça ne sera pas vraiment le cas. Tout seul, en 6e D, absolument tout seul, la loose intersidérale.
Il aurait pu se renseigner pendant l'été, mais là, comment il va faire? Comment il s'y prend?
Alors en fait, il va être élu délégué de sa classe en compagnie de la jolie Marguerite. Mais comment c'est possible? Vous allez me dire, Nicolas, il ne connaît personne. Eh bien, je vous explique. Le gars super populaire de la classe, un certain Clarence, l'ex-petit copain de Marguerite, a demandé à toute la classe de voter pour lui. Et ce même Clarence va organiser un date, un rendez-vous en bon français, entre notre héros et Marguerite, justement. Il la retrouve à l'extérieur du collège. La suite, c'est Elena et Ayoub qui vous la lisent.
Wesh.
Wesh.
T'as quelque chose à me dire?
Moi? Non.
Ben, je sais pas, comme tu m'as donné rendez-vous.
Mais non, c'est pas moi, c'est... Pff.
Bon ben alors, on fait quoi maintenant?
Je sais pas.
Tu connais Coralia?
Coralia?
Oui, Coralia, la chanteuse. C'est ce qu'écoutent les gens populaires.
Non, mais je crois que je serai jamais populaire. C'est trop impossible d'être populaire.
L'idée de Clarence, à la base, c'était justement de faire élire le héros de cette pièce de théâtre pour pouvoir mieux le manipuler par la suite. Mais petit à petit, notre héros va réussir lui-même à se sortir de cette situation très délicate.
Tout ça pour dédramatiser, j'imagine, ce passage difficile pour les ados.
Oui, c'est totalement ça. Et il y arrive notamment grâce à l'innocence de la petite sœur de notre collégien. Elle a 3 ans, elle entre à la Nicole maternelle, elle parle très mal, mais les discussions avec son grand frère sont savoureuses. Une pièce de théâtre à lire à partir de 10 ans, à conseiller de toute urgence à tous les parents, dont les enfants justement entrent au collège en septembre prochain.
Et on rappelle le titre, J'ai trop d'amis de David Lescot, c'est aux éditions Actes Sud Papier.
Et si vous voulez voir cette pièce de théâtre, plusieurs représentations possibles, du 21 au 29 mars au Théâtre de la Ville de Paris à l'espace Pierre Cardin, mais aussi au Festival d'Avignon, du 3 au 22 juillet prochain. Et toutes ces dates, bien sûr, on vous pourrez les retrouver sur la page de l'émission La Voix et Livre sur Europe1.fr.
Parfait, merci Victor.
À la semaine prochaine.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide. Merci à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, pour la réalisation. Et à Xavier Joly pour sa programmation musicale. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. À la semaine prochaine.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre.
Nicolas Carreau.